Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le déficit en alpha-1-antitrypsine, ou DAAT, et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Mathias Ruiz. Docteur Ruiz, bonjour.
Bonjour.
Docteur Ruiz, vous êtes pédiatre au sein du service d'hépatologie, gastro-entérologie et nutrition pédiatrique de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon, et vous coordonnez le centre de référence atrésie des voies biliaires et cholestase génétique sous l'égide de la filière Filfoie. Alors tout d'abord, docteur Ruiz, quelles sont les spécificités du déficit en alpha-1-antitrypsine chez l'enfant ?
Alors, chez l'enfant, le déficit en alpha-antitrypsine ne va se manifester que par une atteinte hépatique. En effet, comme on a pu le voir sur le plan physiopathologique, cette maladie va être responsable de la production par le foie d'une protéine d'alpha-antitrypsine qui est mal repliée, qui va être dégradée dans le foie et être responsable d'une toxicité pour le foie. Le déficit dans la circulation sanguine de cette protéine et donc sa perte de fonction au niveau du poumon ne va concerner, elle, que des adultes. Cette atteinte hépatique chez l'enfant est variable, parfois complètement asymptomatique. Souvent, on a des perturbations chroniques de la biologie hépatique et puis rarement, l'atteinte peut évoluer vers une cirrhose qui peut nécessiter une transplantation hépatique dans l'enfance.
Et est-ce qu'il y a des facteurs aggravants de cette maladie rare chez l'enfant ?
Alors, à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas les facteurs responsables de la variabilité de l'atteinte hépatique d'un enfant à un autre et donc pourquoi certains patients évoluent vers une forme plus sévère. Il est possible qu'il y ait des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, mais sans certitude à l'heure actuelle. En cas d'association d'un déficit en alpha-antitrypsine avec une autre maladie hépatique chronique d'un enfant, l'atteinte hépatique de cette maladie pourrait être aggravée. C'est pourquoi il est conseillé de protéger le foie de ces patients par notamment la vaccination contre l'hépatite A, l'hépatite B, d'éviter le surpoids, notamment à l'adolescence.
Et donc, chez l'enfant, qu'en penser à un déficit en alpha-antitrypsine ?
Alors, chez l'enfant, il y a plusieurs modes de présentation du déficit en alpha-antitrypsine. Classiquement, le diagnostic doit être évoqué en cas de cholestase néonatale, c'est-à-dire lorsqu'il y a une jaunisse prolongée chez un nouveau-né associée à des selles décolorées ou des urines foncées. Donc dans ce cas-là, on fait une prise de sang qui montre une élévation de la bilirubine conjuguée. Donc cette présentation est une urgence pour deux raisons. Déjà, il y a un risque de carence en vitamine K lié à cette cholestase et donc de présentation et de complications hémorragiques. Donc il y a une urgence à administrer de la vitamine K en cas de cholestase néonatale. Et l'autre raison, c'est qu'il y a une urgence diagnostique et notamment pour éliminer les diagnostics différentiels qui peuvent nécessiter parfois un traitement urgent. Le déficit en alpha-antitrypsine va se présenter sous forme d'une cholestase néonatale dans 15 à 20% des cas. Et donc, ce mode de présentation doit faire adresser le nouveau-né vers un centre de référence ou de compétence en urgence pour optimiser la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Plus tard, chez des enfants un peu plus grands, le diagnostic peut être fait devant des perturbations chroniques de la biologie hépatique, des élévations des transaminases, des gamma-GT. Et donc, toute perturbation chronique du bilan hépatique doit faire rechercher également ce déficit en alpha-antitrypsine. Et puis, parfois, on peut avoir également des présentations sous forme de stéatose hépatique chez l'enfant, l'adolescent. Plus rarement, le diagnostic peut être fait également sur un tableau de cirrhose d'étiologie indéterminée, donc il faut penser à ce diagnostic. Et puis, étant donné qu'il s'agisse d'une maladie génétique, le diagnostic est parfois fait à l'occasion d'un dépistage familial autour d'un cas.
Alors, vous l'avez évoqué rapidement, docteur Ruiz, chez ces enfants, quel diagnostic différentiel écarter ?
En cas de cholestase néonatale, il est urgent d'éliminer deux diagnostics, notamment le diagnostic d'atrésie des voies biliaires, parce que cette maladie peut bénéficier d'un traitement chirurgical qui a plus de chances de succès si c'est réalisé précocement. Ensuite, les autres diagnostics à évoquer en cas de cholestase néonatale sont des infections néonatales, des calculs dans les voies biliaires ou des malformations des voies biliaires qui se voient à l'échographie généralement, et puis des maladies plus rares d'origine métabolique, endocrinologique, et puis parfois des cholestases d'origine génétique, syndromique, donc qui sont plus rares, mais qui sont à rechercher lorsqu'on a éliminé les autres diagnostics. Chez l'enfant plus grand, en cas de cytolyse chronique ou de cirrhose, les diagnostics à écarter vont être les causes virales, les hépatites B, les hépatites C, les hépatites auto-immunes également, d'autres maladies plus rares comme la maladie de Wilson ou des maladies métaboliques, une stéatose hépatique, une maladie vasculaire du foie, et puis certaines maladies systémiques.
Et en termes de prise en charge, quelle est la prise en charge recommandée pour ces jeunes patients qui sont touchés par un déficit en alpha-antitrypsine ?
Alors, à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement curatif de l'atteinte hépatique en dehors de la transplantation hépatique qui est indiquée lorsqu'il y a une cirrhose décompensée. En attendant, on traite quand même les complications de la cholestase et de la cirrhose, c'est-à-dire avec une prise en charge nutritionnelle déjà au premier plan pour assurer une bonne croissance chez ces patients, et puis des supplémentations en vitamines si nécessaire. Lorsque l'évolution se fait vers une cirrhose avec de l'hypertension portale, on va traiter s'il y a de l'ascite avec un traitement symptomatique, et puis s'il y a des varices œsophagiennes ou au niveau de l'estomac par des traitements parfois endoscopiques en attendant cette transplantation hépatique. Chez l'enfant, on va utiliser souvent un traitement qui peut fluidifier la bile afin d'essayer de protéger le foie sur le long terme. Le traitement substitutif va plutôt aider sur l'atteinte pulmonaire. Et donc, comme il n'y a pas d'atteinte pulmonaire chez l'enfant, il n'y a pas d'indication à mettre en place ce traitement substitutif qui va se faire plutôt chez les adultes et lorsque l'atteinte pulmonaire est déjà évoluée.
Et ensuite, quel suivi leur proposer ?
Alors, ces patients doivent être suivis par un hépatologue pédiatre avec un suivi plus ou moins rapproché selon la sévérité de l'atteinte hépatique, avec des consultations médicales, des bilans biologiques hépatiques réguliers, des échographies et puis si possible une évaluation par des méthodes non invasives de la fibrose hépatique, c'est-à-dire de la progression de cette atteinte hépatique avec notamment la mesure de l'élastométrie qui est de plus en plus répandue. Une biopsie hépatique est très rarement indiquée chez ces patients. Et puis, au moment du passage à l'âge adulte, on va organiser ce qu'on appelle une transition avec la mise en place d'un suivi par un hépatologue d'adulte. Et puis, on va mettre en place à ce moment-là un premier contact, en général, avec un pneumologue adulte. Et puis, ces spécialistes jugeront du suivi selon l'évolution de la maladie et selon sa sévérité.
Pour conclure notre entretien, Dr Ruiz, quelles actions effectuer auprès de la famille d'un jeune enfant qui est touché par un déficit en alpha-antitrypsine ?
Alors, comme toute maladie chronique, il est important d'accompagner le patient et sa famille, d'autant plus que l'atteinte est sévère. Et donc, pour ça, on va les accompagner en dehors du plan médical et des différents examens. On va les accompagner sur le plan psychologique, les orienter vers un ou une psychologue si nécessaire. Et puis, on va également leur présenter l'association des patients pour avoir un relais si besoin. Et enfin, comme toute maladie génétique qui est donc transmissible, on va proposer un dépistage de la famille autour du cas.
Eh bien, merci mille fois, Dr Ruiz, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare que le déficit en alpha-antitrypsine. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.